1 Pierre 3, versets 8 à 17. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres, qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il cherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous appliquez avec zèle, si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal.
Vous vous en souvenez certainement, en 1986, c'est la Belgique qui a gagné l'Eurovision. C'était la première fois et la dernière fois qu'elle gagnait l'Eurovision. Ne riez pas trop, la France n'a pas trop gagné l'Eurovision non plus, hein. Mais en 1986, c'était une petite liégeoise qui s'appelait Sandra Kim, de 13 ans, qui chantait la chanson « J'aime, j'aime la vie ».« J'aime, j'aime la vie ». Et ça a fait fureur, parce que tout le monde aime la vie, même les Russes ou les Lettons ont voté, ont donné 10 sur 10 à Sandra Kim pour sa chanson « J'aime, j'aime la vie ». Et ça m'a fait penser à ce verset 10 du chapitre 3 de 1 Pierre, qui dit, et nous faisons une série de prédications sur la lettre de Pierre, et on en est arrivé au chapitre 3, « Qui veut aimer la vie, qui aime la vie et voir des jours heureux ?» Et la question est presque rhétorique, parce que tout le monde veut aimer la vie. « Eh bien, qu'il fuit le mal et fasse le bien, faire le bien. » Alors, ça paraît facile comme ça, « Qui veut aimer la vie, ben qu'il fasse le bien. » Mais il faut savoir que le destinataire de la lettre de Pierre vit dans une situation assez difficile. C'est pas encore la persécution, mais ça commence. Ils vivent des tracasseries. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils sont considérés comme des quantités négligeables. Ils sont juste tolérés. Pierre les appelle des résidents temporaires, carrément des immigrés, des étrangers chez eux. Donc c'est un contexte difficile, et tout ça parce qu'il refuse de rendre un culte à l'empereur, à s'agenouiller devant l'empereur. Et dans ce contexte de témoignage en milieu hostile, quasi hostile, Pierre va encourager les chrétiens. Et c'est le thème de sa première lettre aux chrétiens d'Asie mineure, c'est l'encouragement. Il veut les encourager. Alors, ces encouragements prennent parfois des tournures un peu bizarres. Il commence par un encouragement. Et là, je résume un peu les deux premiers chapitres de la première de Pierre. Il va parler de cette espérance, dans cette espérance vivante, dans cet héritage incorruptible qui nous est réservé dans les cieux et pour lequel nous sommes gardés sur terre. Un encouragement tout à fait recevable. Et après, il nous encourage à maintenir la joie malgré les épreuves. Ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Il nous encourage aussi à mener une vie de sainteté et une vie de service comme des pierres vivantes. Alors là, ça demande un petit peu plus d'efforts. Encore une fois, c'est beaucoup demandé. Et puis, et ça, c'était la dernière fois, il nous encourage à une vie de soumission. Alors là, Pierre, il commence à nous énerver un petit peu, mais ce sont ces encouragements. Et comme si ça suffisait pas, aujourd'hui, et au chapitre 3, il nous encourage à faire le bien. Et Pierre le répète, et on retrouve 6 fois dans le texte le mot « bien », et pour montrer qu'il ne tourne pas autour du pot, il va dire à un moment « soyez zélés pour le bien ». Alors, le mot « zélé » est bien connu à l'époque puisqu'il désigne une organisation patriotique israélienne, nationaliste, les zélotes qui, depuis l'époque des Maccabées, c'est-à-dire l'époque entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est l'époque des Maccabées, ont juré de rendre la dignité au peuple d'Israël et de voir non pas le Québec libre, mais Israël libre de la tutelle des Romains. Et donc, c'est un groupe les zélotes qui sont prêts à tout sacrifier pour la cause de la patrie. Et Pierre utilise ce mot très fort, zélos, qui a donné zélote, qui a donné zèle en français, pour parler de l'engagement dans la cause du bien. On pourrait parler d'un encouragement à la poursuite agressive du bien, pas de mollesse dans la pratique du bien. On y va à fond pour pratiquer le bien. Et on remarquera que Pierre n'est pas dans l'encouragement à se faire du bien, hein, comme on l'entend dans tous les coachs de bien-être, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Alors on n'est pas contre, hein, de temps en temps c'est bien de se faire du bien, mais là il est dans l'encouragement à pratiquer le bien, non pas à se faire du bien, mais à pratiquer le bien, à faire le bien. Et cet encouragement n'est pas anodin, n'est pas inutile, parce que autour de nous, tout semble nous dire que la pratique du bien, eh ben, ça ne paye pas. Eh bien, ça ne donne rien. Il n'y a pas de retour. Il y a mon épouse Yvonne, à l'Intermarché d'Orléans, il y a quelques années, quand nous étions à l'église d'Orléans, elle a voulu aider une dame à mettre ses bacs d'eau dans son casier, dans son caddie, pardon. Et qu'est-ce qu'a fait la dame? Elle lui a tapé sur l'eau. Vous voulez voler mon eau? Alors, c'est sûr que Yvonne avait l'intention de voler la flotte de cette brave dame. Ça, c'est clair. Elle fait ça souvent. Mais le personnel de l'Intermarché qui avait vu la scène a fait la réflexion après en disant, voilà, tu veux faire une BA et on te tape sur les doigts. Et c'est un peu ça, tu veux pratiquer le bien et on te tape sur les doigts. Celui qui veut faire le bien ne reçoit rien en retour, et à l'inverse, on voit que parfois la méchanceté paye. Et c'est la réflexion d'ailleurs de l'auteur du psaume 73, Asaph, qui voit que les méchants prospèrent, qui voit que le mal paye, et qui manque de trébucher dans sa foi. Et voilà ce qu'il dit, vous le lisez sur l'écran. « Pourtant, il s'en est fallu, de peu que mes pieds ne trébuchent dans ma foi. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux et arrogant en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort. Ils ont de l'embonpoint, ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. » Oui, le doute est permis quant à l'efficacité de la pratique du bien. Il s'en est fallu que son pied trébuche, mais Asaph s'est ressaisi et il a vu que le vrai bonheur se trouvait peut-être autre part. Et Pierre balaye aussi nos réticences naturelles à l'égard de la pratique du bien, qui ne paie pas, en disant le contraire, « faire le bien, c'est aimer la vie ». Verset 10, « Que celui qui veut voir des jours heureux, que celui qui veut toucher au bonheur, eh bien qu'il fasse le bien. La pratique du bien serait-elle la clé du bonheur ? Eh bien, la Bible dit oui. La Bible dit oui, 3 fois oui. Alors, il ne s'agit pas de trop spiritualiser et parler du bonheur que nous aurons au ciel. Non, la Bible parle d'un bonheur sur terre pour ceux qui pratiquent, pour ceux et celles qui pratiquent le bien. Pratiquer le bien donne des jours heureux alors que nous sommes encore sur cette terre. C'est une promesse à saisir. Et dans le livre des Proverbes, cette vérité biblique est dite de façon la plus claire possible. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Et dans une autre traduction, l'homme bienveillant fait du bien à son âme. Faire le bien, c'est s'en faire à soi-même. L'homme qui veille sur sa pratique du bien nourrit son âme, nourrit son jardin intérieur. Et quand j'ai dit cela à une étude biblique quelque part en France, c'était à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, il y avait un des participants était un médecin et il m'a dit ben oui bien sûr, c'est reconnu scientifiquement que faire du bien fait du bien. Et je lisais un article sur internet dans un site de psychologie, sept bonnes raisons de faire le bien, c'est bon pour la santé psychique et physique, et des études et des observations scientifiques le prouvent. Faire le bien, ça rend heureux. Faire le bien, ça renforce le système immunitaire. Faire le bien soulage la douleur. Faire le bien donne du plaisir. Ben ouais, on n'est pas contre. Faire du bien améliore les performances chez les autres. Faire du bien, c'est motivant. Faire du bien est contagieux. Ça donne envie aux autres de faire du bien. Ah. Oh mince, je dois tout repasser. Voilà, faire du bien, c'est s'en faire à soi-même. Il y a comme un retour, un feedback à la pratique du bien. Il y a un commentateur qui écrivait, c'est celui qui agit qui est le plus affecté par ce qu'il fait. C'est celui qui agit qui est le plus affecté par ce qu'il fait. Et la gentillesse, le bien, affecte celui qui en manifeste par des actes concrets. Je vous raconte une histoire, mais il n'y a aucune vantardise dans ce que je raconte. C'était en 2001. Nous étions à Bruxelles, dans l'église de Bruxelles. Et dans ce petit village flamand, dans la banlieue bruxelloise, il y a deux dames algérienne avec des enfants autour d'elle qui me demandent de l'aide pour un pneu éclaté de leur voiture. Elles devaient aller à l'école pour amener leurs enfants. Et je savais pas quoi faire. Et puis j'ai eu une idée. Je leur ai prêté ma voiture. Je leur ai donné les clés de la voiture. Je les connaissais pas. Je leur ai donné les clés. Voilà. Alors c'était une Peugeot 205 Junior avec les sièges en jean et puis les bandes latérales. Je ne sais pas si j'aurais prêté ma Porsche Cayenne, mais la Peugeot 205, je l'ai prêtée. Et elles me l'ont ramenée une heure après, avec une bouteille de champagne. Mais je n'avais pas besoin de la bouteille de champagne. J'avais été content de faire ce geste tout simple, de prêter, avec des risques quand même, hein, qu'elles partent avec ma voiture. Mais j'avais été tellement content de le faire. Ce n'était pas un acte extraordinaire, mais j'avais fait quelque chose de bien. Et le bien m'avait fait du bien, une quiétude intérieure. Alors pourquoi ressentons-nous du bien quand nous pratiquons du bien, le bien ? Est-ce que c'est parce que nous recevons une décharge d'endorphines sécrété par la glande hypophyse et par l'hypothalamus, peut-être, mais ça, c'est que la raison physiologique. Il y a une raison d'ordre spirituel. Si faire le bien nous fait du bien, c'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu qui est bon, qui est le souverain, comme dit la Bible, qui est le souverain bien, qui est le bien personnifié. Et quand nous pratiquons le bien, nous ressentons comme une adéquation avec ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des créatures faites à l'image de Dieu, des hommes et des femmes faites à l'image de Dieu, du bien, le Dieu du bien, qui pratique le bien, de toute éternité, qui pratique le bien jusqu'à donner son Fils unique sur la croix pour notre bien, qui fait le bien de toute éternité et qui fera le bien jusque dans l'éternité et qui le fera, oui, jusque dans l'éternité, je me répète. Quand nous faisons le bien, Dieu, qui s'y connaît en bien, sourit et nous dit « C'est exactement ce que j'espérais que tu fasses en faisant le bien. » Et nous sentons ce sourire de Dieu sur nous, cette connivence, cette participation à la nature de Dieu. Et nous sourions aussi, c'est comme si un soleil se levait sur notre existence. Et regardez ce verset magnifique d'Ésaïe 58, « Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. La lumière se lèvera sur toi. » Quelle promesse pour ceux qui veulent s'engager dans la pratique du bien. Quand tu pratiques le bien, tu marches dans la lumière. Et le Nouveau Testament rajoute quelque chose d'intéressant, c'est que nous avons été préparés pour cela. Dans Éphésiens 2, il nous est dit que Dieu nous a préparés pour des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi que quand nous faisons le bien, quand nous pratiquons les belles et bonnes choses, nous remplissons l'objectif de notre existence. Comme quand nous faisons le bien, nous sommes pile poil là où nous devons être. Nous saisissons notre destinée en tant qu'être humain. Et quand nous parlons d'adéquation par rapport à notre destinée, on s'approche de la notion de bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas se faire plaisir, c'est pas ressentir tout le plaisir, c'est d'avoir cette impression ou cette conviction qu'on est bien là où on doit être, où on se tient là où nous devons être. Il y a un retour à la pratique du bien, pas toujours une bouteille de champagne à la clé, mais certainement des bulles dans notre âme, du pétillant dans notre être intérieur, et ce jusque dans la vie éternelle. Et les destinataires de la première de Pierre, ils avaient besoin d'entendre cela, eux qui vivent dans un contexte difficile où la pratique du bien n'allait pas de soi. Il est dit dans le texte, et vous l'avez lu, vous l'avez entendu tout à l'heure, ils souffrent en pratiquant le bien. Alors parfois on pratique le bien et on n'a pas de retour, c'est déjà difficile, on a de l'ingratitude, c'est difficile, mais eux, ils pratiquent le bien et ils en souffrent. Et ils souffrent de cela. Et c'est pour ça que Pierre les encourage à ne pas se lasser dans la pratique du bien. Et nous avons aussi de la lassitude parfois dans la pratique du bien. Pour une raison ou pour une autre, nous ne voyons justement pas de bonne raison de continuer à pratiquer le bien. Et peut-être que nous connaissons ce matin une petite ou une grande baisse de régime dans la pratique du bien, dans notre motivation à pratiquer le bien. Et Pierre nous encourage à continuer à être zélés pour le bien. Et Paul va le faire aussi, et il va dire dans 2 Thessaloniciens, « Ne vous lassez pas de faire le bien. » Et si Paul prend la peine de nous encourager à ne pas nous lasser, c'est parce que la lassitude pourrait exister dans la pratique du bien. On peut être lassé. Et dans Galates 6, 9, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Parce qu'on pourrait perdre courage. Quand les vents semblent contraires, quand la voie la plus facile serait de ne rien faire ou de laisser faire ou de ne pas le faire, le bien. Quand l'adversaire du bien, quand le diable, quand le Satan nous susurre à l'oreille de nous laisser aller, devant l'immensité de la tâche, l'immensité du mal, quelle serait notre petite goutte de bien, quel changement ça pourrait faire dans ce monde complexe et difficile où le mal abonde. Et Pierre nous rappelle que le bonheur se trouve dans la pratique du bien en tant qu'être créé à l'image de Dieu, une image qui a été ternie par le péché, c'est-à-dire ce désir insensé de vivre indépendamment de Dieu, mais une image qui se trouve renouvelée en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection est devenu vainqueur du mal par le bien, qui est devenu lui aussi le souverain bien et qui nous transforme par sa vie donnée pour nous. Et on connaît le chant, en lui nous sommes transformés de gloire en gloire et notre vie peut dire notre histoire, c'est Seigneur, par la clarté de ton amour. Et on va le chanter tout à l'heure. Que l'histoire de Jésus, cet homme de bien, brille sur moi, brille sur toi, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui font chaque jour le choix de faire le bien, qui marchent dans la lumière, comme dit le prophète Ésaïe, dans la lumière du bien. Alors, la pratique du bien, ça pourrait prendre différentes formes, mais pratiquer le bien, ça se doit d'être pratique. Il faut se mettre à la pratique. Alors, il y a des pratiques plus élaborées ou organisées, comme entrer dans une association caritative, dans J'avais faim, par exemple, qui distribue des repas aux sans-abri, soutenir une mission, le sel, le parrainage d'enfants, portes ouvertes, l'église persécutée, soutenir l'église aussi, qui veut être partie prenante dans cette pratique du bien, ou ça peut prendre des gestes, signifier des gestes très simples, spontanés, encourager un enfant, faire un cadeau à quelqu'un, offrir son sourire, offrir ses services, parler à une vieille dame, soigner quelqu'un, prier pour quelqu'un, parler de l'évangile à quelqu'un, écouter quelqu'un, éviter une colère, accueillir l'étranger, ne pas être raciste, relever des choses positives, ne pas critiquer, inviter quelqu'un chez soi, dire un mot sympa, peu importe le flacon du bien, pourvu qu'il y ait le bonheur de faire le bien. Comme dans la publicité pour les motos Suzuki, le bien peut devenir « a way of life », une manière de vivre, la manière de vivre pour ceux qui ont été faits à l'image de Dieu. Il nous faut persévérer, chers amis, dans la pratique du bien, parce qu'il y a de beaux jours en réserve pour ceux et celles qui s'engagent résolument dans cette façon de vivre. Il y a des jours ensoleillés, selon le prophète Ésaïe, sous le soleil de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière de la pratique du bien. Et nous pourrions dire, comme Asaph, vous savez, celui qui a failli trébucher alors qu'il voyait le succès du mal autour de lui, nous pourrons dire comme lui, après avoir médité la parole, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen. On va prier. Seigneur, tu sais toutes choses de nous, tu sais où nous en sommes dans la pratique du bien. Tu connais nos découragements, tu connais notre lassitude. Tu connais notre jalousie peut-être de voir que le mal prospère. Seigneur, donne-nous par ton Esprit Saint de nous encourager à de nouveau pratiquer le bien autour de nous. Donne-nous ton amour pour ceux qui nous entourent. Donne-nous l'envie et l'énergie de le faire. Donne-nous de nous saisir de cette promesse que c'est être à ton image et c'est le bonheur de le faire. Donne-nous de croire que c'est toi qui définis notre bonheur. Seigneur, donne-nous de marcher à ton image, toi le souverain bien. Te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus qui est mort pour notre bien à tous. Oui, en son nom, nous te prions. Amen.